Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 26 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Tout d'abord, les titres. Au Burkina Faso, un gouvernement de 23 membres nommés pour diriger la transition. Le président Félix Tshisekedi de RDC, nommé facilitateur dans la crise tchadienne. Sur la situation entre Kigali et Kinshasa, une réaction de Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais dans cette édition. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, pose des conditions en apaisement avec la France. Au Ghana, les législateurs demandent le renvoi du ministre des Finances face à une inflation record dans le pays. Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, reconduit les principales figures du gouvernement conservateur. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, on connaît le gouvernement du nouveau Premier ministre, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, un gouvernement qui était attendu depuis quelques jours par les Burkinabés. La liste de ce gouvernement de 23 membres a été dévoilée hier soir à la télévision nationale, soit 72 heures après la nomination du Premier ministre. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Il s'agit d'un gouvernement de 23 membres composé de 20 ministres pleins et 3 ministres délégués. 5 femmes figurent parmi les 23 membres du nouveau gouvernement. La défense est assurée par un colonel-major Kassoum Koulibaly, un autre colonel à la sécurité Boukari Zungrana, qui était jusque-là le patron de la brigade qui s'occupait des supplétifs de l'armée. Le très populaire ministre de la fonction publique sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Bassolma Bazier, garde son poste. Mieux, il est bombardé ministre d'État. En plus de lui, 4 autres anciens ministres sous Damiba ont été reconduits. Le chef du gouvernement avait prévenu. Les membres de ce gouvernement n'allaient pas atteindre 25, même si la charte de la transition, adoptée à l'issue des assises nationales, autorisait ce nombre de 25 ministres. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela s'est contenté de réduire à 23 ce nombre au regard de la rareté des ressources, selon lui. Et surtout, en ce moment crucial où il faut une mobilisation générale pour la restauration de l'entière intégrité du territoire. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. Signalons que le Burkina Faso a lancé cette semaine le recrutement de 50 000 VDP volontaires pour la défense de la patrie des supplétifs civils qui vont renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La guerre des communiqués continue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo suite à la reprise des affrontements entre les FARDC et le M23. Le gouvernement rwandais a accusé la RDC d'être sur la voie d'une escalade militaire continue. Kinshasa a répondu hier à Kigali que ces velléités interventionnistes ne seront jamais tolérées. Patrick Muyaya, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement à Kinshasa.
Ces communiqués, c'est un véritable aveu que le Rwanda soit le premier à prendre fait et cause l'avocat d'un groupe armé qui sème la mort et la désolation dans un pays étranger, qu'un gouvernement fasse un communiqué pour venir le soutenir. Dans cette sortie, il parle d'incitation à la haine, mais ces discours qui visent à diviser les Congolais est encore extrêmement grave, parce que si les M23 qui se présentent au dire du pouvoir rwandais comme un mouvement qui protège une minorité congolaise, comment expliquez-vous qu'ils fassent autant de morts, autant de déplacés sans s'en émouvoir? Comme dans leur tradition, ils ont commencé par attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont riposté. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons leur rappeler l'engagement du gouvernement autour du président de la République de défendre chaque centimètre de notre territoire national.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement à Kinshasa. Kinshasa, où sont réunis hier en sommet extraordinaire les dirigeants de la communauté des États d'Afrique centrale. Le président congolais Félix Tshisekedi a été désigné par ses homologues facilitateur dans la crise tchadienne. Le point avec Jenny Nua.
Ce sommet consacré au processus de transition politique au Tchad a été organisé quelques jours après des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts le 20 octobre au Tchad. Le dirigeant tchadien Mahamad Idriss Déby Itno était présent à cette réunion des 11 pays membres de la CEAC. Dans son discours d'ouverture, M. Tshisekedi a qualifié les événements du 20 octobre de dérapage dramatique. Lundi soir, dans un discours télévisé, Mahamad Idriss Déby Itno a affirmé que ces protestations étaient une insurrection minutieusement préparée avec le soutien de puissances étrangères qu'il n'a pas nommées. L'Organisation mondiale contre la torture, une ONG basée à Genève, affirme avoir saisi les rapporteurs spéciaux de l'ONU de cas d'exécution sommaire et de torture sur des manifestants pacifiques.
Le Mali pose comme préalable le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques avant un retour à la normale dans ses relations avec la France. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le point avec Abdourahmane Dia.
Prenant part au 8e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le chef de la diplomatie malienne a indiqué que son pays a souhaité que sa souveraineté soit respectée, que ses choix stratégiques et ses choix de partenaires soient respectés et que les intérêts vitaux des Maliens soient pris en compte. Si ces éléments sont observés, le Mali n'a de problème à traiter avec aucun partenaire, y compris la France, a-t-il assuré à des journalistes après une intervention publique au forum. Interrogé sur ses accusations contre la France dans une lettre adressée en août au Conseil de sécurité de l'ONU, dénonçant notamment des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises, Abdoulaye Diop a affirmé que son pays attendait la session spéciale qu'il réclame pour en produire les preuves. Abdoulaye Diop a néanmoins reconnu que l'Afrique avait une responsabilité dans la situation sécuritaire actuelle sur le continent. « Il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens. Nous avons notre propre responsabilité », a-t-il dit.
En Guinée, le FNDC a annoncé hier reporter des manifestations prévues mercredi et les remplacer par une journée de prière à la mémoire des personnes tuées lors des récentes mobilisations. Ce collectif, à l'origine des seuls mouvements de protestation contre la junte au pouvoir, a parlé d'un bilan particulièrement élevé de la répression sanglante des manifestations de la semaine passée. 5 civils ont été tués par balles les 20 et 21 octobre, lors de heurts dans la banlieue de Conakry. Au Ghana, les législateurs du parti au pouvoir ont appelé hier au limogeage du ministre des Finances, faisant monter la pression sur le gouvernement du pays, confronté à une inflation record, Michel Joseph.
Le président Nana Akufo-Addo est sous le feu des critiques. Les Ghanéens font face à une inflation de 37% et à l'effondrement de la monnaie nationale, le CEDI. Le ministre des Finances, Ken Oforiatta, vient tout juste de rentrer de Washington où il a participé à des discussions avec le FMI pour obtenir un prêt très controversé au Ghana de 3 milliards de dollars. En plus de la tête de M. Oforiatta, la majorité de parlementaires du parti de M. Akufo-Addo a demandé aussi le limogeage d'un autre responsable des finances. Le président doit les licencier immédiatement, a déclaré le porte-parole du groupe parlementaire Andy Appiah-Kubi, alors que les législateurs doivent entamer les débats sur le budget en novembre. La semaine dernière, les commerçants d'Accra, la capitale, ont fermé boutique pour protester contre la flambée du coût de la vie.
Et au Royaume-Uni, Rishi Sunak, troisième premier ministre du pays en 2 mois a reconduit hier les principales figures du gouvernement conservateur et promet de réparer les erreurs commises par l'éphémère Liz Truss. Sur le plan économique, il a opté pour la stabilité avec Jeremy Hunt, 55 ans, au ministère des Finances, qui doit présenter ses nouvelles mesures budgétaires le 31 octobre. Il a confirmé James Cleverly aux affaires étrangères, Ben Wallace à la défense, ainsi que l'ultra-conservatrice Suella Braverman à l'intérieur. En Italie, la nouvelle première ministre Giorgia Meloni a fermement ancré mardi son pays au cœur de l'Union européenne et de l'OTAN, tout en rejetant toute proximité avec le fascisme. 1 mois, jour pour jour, après la victoire historique de son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, aux élections et l'inquiétude qu'elle a suscitée. Des étudiants ont manifesté mardi dans plusieurs universités à travers l'Iran où les tensions restent vives à la veille de la cérémonie attendue pour le 40e jour suivant la mort de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini qui marque traditionnellement la fin du deuil dans ce pays. La Minute Éco, Mohamed Houmfa.
Au Cameroun, le groupe hôtelier international Radisson Blu a posé mardi la première pierre de son complexe hôtelier à Yaoundé, la capitale. Selon la fiche technique du projet citée par investirocameroun.com, le complexe hôtelier de luxe 5 étoiles comprendra 220 appartements haut de gamme. Le coût de l'investissement est de 37 milliards de francs CFA et l'ouverture fixée en 2025. La compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire a signé mardi un contrat d'acquisition de 2 Airbus A330neo. Selon une autre information rendue publique par la compagnie, la livraison de ces 2 avions est prévue au 4e trimestre 2024 pour le premier et au 2e trimestre 2025 pour le second. Ils seront configurés en 4 cabines avec 240 sièges. Avec l'entrée de ces 2 avions long courrier dans la flotte d'Air Côte d'Ivoire, la compagnie lancera ses vols vers l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis, explique la note. Le milliardaire égyptien Naguib Sawiri s'est dit prêt à investir 100 millions de dollars au Maroc. C'est ce qu'il a déclaré au journal Ashark Business en marge de l'Africa Business Forum qui a eu lieu les 19 et 20 octobre à Casablanca. Parmi les secteurs qui retiennent son attention, la technologie et particulièrement la recharge des voitures électriques.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme pour commencer avec l'annulation du Tour du Faso.
Oui, l'édition 2022 du Tour cycliste international du Burkina, initialement prévue du 11 au 20 novembre, a été annulée. Raison invoquée par les autorités, la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes dans certaines localités du Burkina. C'est ce qui ressort d'un courrier adressé par le secrétaire général du ministère des Sports à la Fédération burkinabé de cyclisme. Joint à Ouagadougou pour Alain Didier Compaoré, journaliste sportif à la télévision nationale, cette annulation du Tour cycliste international du Burkina Faso est une déception pour le monde du cyclisme.
L'annulation du Tour du Faso 2022 est une mauvaise nouvelle pour la Fédération burkinabé de cyclisme, pour les amoureux de la petite reine et surtout pour les cyclistes burkinabés. Le Tour du Faso, c'est une compétition de 10 jours qui sillonne les grandes villes du pays et actuellement, certaines villes sont inaccessibles par la route. C'est un coup de massue hein, du côté des cyclistes que nous avons rencontrés et qui se préparaient à travers les compétitions sur le plan local mais aussi international en vue de participer à ce grand rendez-vous. Vous savez que le Tour du Faso, c'est quand même l'une des compétitions phares du continent. Donc, les cyclistes burkinabés, africains et même européens avaient quand même à cœur de participer à cette compétition qui vient d'être annulée.
Alain Didier Compaoré, journaliste sportif à la télévision nationale burkinabé.
De nouveau qualifié pour les 8e de finale hier en Ligue des champions en Europe.
Avec des doublés de Lionel Messi et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a récité son football contre le Maccabi Haïfa 7-2, se qualifiant pour les 8e. Qualification aussi pour Dortmund. Le Borussia s'est contenté d'un match nul 0-0 contre Manchester City. avec un pénalty raté de l'Algérien Riyad Mahrez, déjà qualifié pour s'assurer une place en huitième de finale et réduire à néant les efforts de Séville, vainqueur de Copenhague 3-0. Tenant du titre et déjà qualifié pour les huitièmes, le Real Madrid a perdu son premier match de la saison 3-2, surpris par le RB Leipzig. De quoi permettre au club allemand de consolider sa deuxième place devant le Shakhtar Donetsk, freiné par le Celtic à Glasgow, 1-0. Chelsea, du Sénégalais Kalidou Koulibaly, a obtenu sa qualification en battant Salzbourg 2-1. L'AC Milan a gagné à Zagreb 4-0.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a mis fin au mandat de la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan, et du juge Trinité Bango Sangafio, après leur mise à la retraite. Dans un premier décret, M. Touadéra annule spécifiquement l'élection de Danielle Darlan à la présidence de la Haute Cour. Nani Talani a joint à Bangui Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Il y a eu un débat parce qu'à un moment donné, on a mis des membres de la Cour constitutionnelle à la retraite. Certains parce qu'ils étaient professeurs à l'université de Bangui, d'autres parce qu'il était magistrat et atteint par la limite d'âge. Et à l'époque, il y a eu un débat au niveau de la République centrafricaine où certains pensaient que les professeurs d'université, s'ils étaient mis à la retraite de ce côté-là, cette retraite-là jouait sur leur position au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous, des droits de l'homme, nous avons dit qu'il n'y avait aucun lien, que lorsque leurs pères ont fait une assemblée et qu'ils les ont désignés, ils sont nommés membres de la Cour constitutionnelle et cette élection est détachable du fonctionnement de la Cour constitutionnelle et on ne peut pas les démettre de la Cour constitutionnelle sous prétexte qu'ils ont été retraités au niveau de l'enseignement supérieur.
Est-ce qu'on peut dire que le président Touadéra a violé la Constitution?
Moi, je ne suis pas juge constitutionnel. Je pense que le décret étant signé là tout à l'heure, ce sont les membres de la Cour de constitution et les personnes ayant un intérêt qui vont certainement réagir par rapport à ce décret. Mais je ne peux pas, sans être juge constitutionnel, dire si ce décret est conforme ou non conforme à la Constitution.
Peut-on dire que cette situation a un lien avec l'invalidation par la Cour des décrets du président créant un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution?
Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Pratiquement l'année 2022, nous avons connu beaucoup de petites difficultés entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif. Premièrement, en ce qui concerne la loi sur la crypto-monnaie, dont les dispositions faisaient état de ce que ceux qui s'engageaient dans cette voie étrangers pourraient avoir la nationalité centrafricaine ou avoir des propriétés en République centrafricaine. La Cour constitutionnelle a donc annulé ces dispositions et puis il y a eu l'opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les décrets qui créaient un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Et nommant les membres, la Cour constitutionnelle a pensé que ce décret-là était contraire à la Constitution. Et puis donc nous sommes partis dans un système de bras de fer et puis il y a eu des textes de mise à la retraite au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la magistrature. Ces textes-là pouvaient avoir un effet sur la position des retraités au niveau de la Cour constitutionnelle.
À quoi peut mener ce nouveau bras de fer entre le pouvoir ou les autorités et la Cour constitutionnelle?
Je ne sais pas là où ça peut mener, mais je vais simplement dire que c'est quelque chose qui est malsain par rapport à la bonne gestion de la chose publique en République centrafricaine. C'est-à-dire que l'harmonie qui existe dans le fonctionnement de l'institution de la République et qui font de notre pays un état de droit ne devrait pas arriver à un certain dysfonctionnement qui fait qu'il y a des décrets qui sont pris et des résistances qui sont opposées. Il y a la Constitution qui est réclamée pendant que d'autres lois réglementaires interviennent dans le même domaine. Donc il y a un problème qui ne va pas quelque part.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est adressé à la nation lundi suite à la manifestation violente et réprimée à N'Djamena et dans les provinces du Sud qui ont fait plus de 50 morts, la plupart victimes de balles réelles. Le président tchadien a décrété un deuil national d'une semaine et a accusé l'opposition d'être seul responsable de ces massacres. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
En prenant les mots de son premier ministre, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, confirme que ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. Il apporte tout son soutien aux forces de l'ordre qui ont maîtrisé cette situation. Toutefois, il décrète une semaine de deuil national.
Un deuil de 7 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national à compter de mardi 25 octobre 2022 en mémoire de nos compatriotes morts au cours de ces événements tragiques et regrettables.
Le général Mahamat Idriss Déby impute la responsabilité de ces massacres aux organisateurs de cette manifestation, notamment au président du parti Les Transformateurs, qui, selon lui, avant, pendant et après le dialogue national, refuse toute proposition mais surgit à la fin pour exiger le partage du pouvoir.
Dans l'esprit d'ouverture préconisé par le dialogue, le Premier ministre et moi-même avons suggéré que les membres du parti Les Transformateurs participent au gouvernement d'union nationale. Là aussi, nous avons enregistré un refus catégorique du président Les Transformateurs qui a exigé la primature ou rien. Si j'avais accédé à cette demande, il n'y aurait ni manifestation ni toutes ces violences.
Docteur Succès Masra a répondu au général 5 étoiles en ces termes.
Je me prépare à des responsabilités d'homme d'État. Je ne me permets pas d'aller dans la poubelle de l'histoire.
Pour lui, le général Mahamat Déby n'est pas un homme digne de confiance.
Les Tchadiens savent que mon engagement, c'est un engagement d'abord pour la justice et l'égalité, pas pour des choses qui me concernent moi à titre personnel. Moi, je prends la peine, pour des choses sérieuses qui concernent le pays, je les accouche par écrit. Même les discussions qu'on a eues oralement, je les mets en préambule avant d'asseoir les propositions qui accompagnent cela. Et donc, les documents qui ont été mis à disposition, s'ils sont courageux, qu'ils le sortent.
Le président de la transition accuse les organisateurs de la manifestation pacifique du 20 octobre dernier ayant tourné à l'émeute d'être en intelligence avec l'ennemi pour déstabiliser les institutions de la République.
Le groupe politico-militaire non signataire des accords de Doha ont entretenu des relations directes avec les responsables de ces actes violents. Ils leur ont dit d'opposer une résistance de 3 jours, à l'issue de laquelle ils interviendront.
Pour Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, ces allégations renforcent plutôt sa détermination.
Jamais je ne souscrirai à la dynastie, jamais je ne souscrirai à des élections volées d'avance. Voilà mon plus grand péché. Et donc, comme on désigne comme l'ennemi public numéro un, quelle bonne nouvelle qui est annoncée. Alors oui, la rupture, elle est totale et complète. On ne peut s'unir que sur la base de la justice et de l'égalité. C'est terminer le mensonge.
Dans la ville, la situation reste toujours confuse. Les militants du parti Les Transformateurs sont toujours traqués par des hommes en treillis. D'autres sont enlevés dans leur domicile, notamment pour des destinations inconnues. À la tombée de la nuit, les armes crépitent toujours dans les quartiers sud de N'Djamena. André Kotmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop a reçu lundi à Norman, dans l'Oklahoma, le 22e prix Neustadt international de littérature, l'un des plus prestigieux prix littéraires aux États-Unis. Monsieur Diop, l'un des romanciers africains les plus réputés, est le 3e écrivain d'expression française à être le lauréat de ce prix et le 4e écrivain incluant les anglophones et les lusophones. Au micro d'Éric Manirakiza, Boris Diop explique ce que ce prix représente pour lui.
Beaucoup. Comme je dis toujours, nous on écrit sans vraiment jamais penser à des prix littéraires. Et lorsqu'ils arrivent, ils sont réellement les bienvenus. Et celui-ci, parce que c'est un prix international, parce que Jennifer Croft, la personne qui a proposé mon roman Murambi, le livre des ossements, l'a fait après avoir lu mon roman en Wolof. Et pour moi, ça a une saveur particulière. Bon, quelque part, voilà, c'est la langue Wolof qui conduit à une telle reconnaissance. Oui, qui est une reconnaissance finalement, bon ben, au niveau international, parce que le Neustadt est ouvert à toutes les langues du monde. Hein. C'est ouvert aux Chinois, aux Japonais, aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Français, à tout le monde. Voilà. Donc oui. Très content, comme chaque fois qu'on a un prix, mais particulièrement content, parce que tout est parti de Domingolo, mon premier roman en Wolof.
Ce prix est effectivement lié à votre roman sur le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui a marqué un tournant dans votre approche littéraire, n'est-ce pas?
C'est certain. Hein? Je dis parfois qu'il y a ma façon d'écrire avant le Rwanda, avant que je n'aille là-bas en 98, et ma façon d'écrire après. Voilà. Je considère moins la littérature comme une espèce de divertissement innocent, plus conscient que jamais, donc, après le Rwanda, de la lourde responsabilité de l'écrivain. J'ai envie d'ajouter africain, mais au fond, juste écrivain, ça suffit, de quelque nationalité qu'on soit. Et donc, oui, voilà, je pense que le contenu de mes livres, ça se concentre beaucoup sur certaines questions de société, sur les menaces qui pèsent sur les sociétés les plus fragiles, les nôtres, dominées, pillées. Oui, je parle de ça. Et puis, bon, ben, évidemment, ça, c'est le travail des critiques de le faire. Je sens moi-même, en tant qu'auteur, que mon style a changé, c'est vrai. Voilà, je crois que c'est devenu plus simple. C'est moins dans l'esthétique d'avant-garde. Et puis, finalement, de métamorphose en métamorphose, c'est le génocide des Tutsis du Rwanda qui m'a conduit à l'écriture en Wolof.
L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, lauréat du prix du 22e prix Neustadt international de littérature. Les actrices avec un rôle principal étaient autrefois rares dans les films d'action américains, mais de plus en plus, de grosses productions à succès et des plateformes de streaming ont placé les femmes au cœur de l'action, mettant en avant leur force et leur ingéniosité. En plus, ces héroïnes puissantes sont représentées sous diverses formes ethniques, attirant un public plus large. Un reportage de Pénélope Poulou et récit de Blanche Sanou.
Le film Alien, lancé en 1979, était révolutionnaire à l'époque, avec un rôle principal féminin incarné par Sigourney Weaver dans le rôle d'Hélène Ripley. Dans le scénario, elle devait combattre des extraterrestres dangereux dans une société spatiale corrompue. L'American Film Institute considère le rôle de Weaver comme l'un des plus importants de l'histoire du cinéma. Récemment, nous avons de plus en plus d'héroïnes d'action comme Jennifer Lawrence et Katniss Everdeen dans Hunger Games, Gal Gadot dans Wonder Woman, Scarlett Johansson, super-héros dans Black Widow. Les héroïnes d'aujourd'hui sont plus diversifiées sur le plan ethnique. L'actrice amérindienne Amber Midthunder joue un chasseur extraordinaire dans le film d'action Prey de 2022, tandis que Viola Davis mène une unité de guerrières africaines à la victoire dans The Woman King. L'adhésion d'Hollywood pour des femmes chefs de file de l'action est motivée par la demande populaire, déclare la productrice de films primée aux Oscars, Kathy Schulman, qui défend l'égalité des sexes dans les industries de l'écran.
Les femmes sont les principales acheteuses de contenu, que ce soit dans le cinéma, la télévision et le streaming. Et donc, en fonction de la demande, c'est de faire un film pour la majorité, pas pour la minorité.
Les films avec des distributions ethniquement variées génèrent souvent des recettes mondiales plus élevées, selon le rapport annuel de l'Université de Californie à Los Angeles sur la diversité à Hollywood. De telles représentations comptent beaucoup pour les jeunes cinéphiles. Sophia Panchal, 11 ans, dit qu'elle et sa sœur Jasmine sont particulièrement attirées par les personnages de la mini-série d'action télévisée Miss Marvel, mettant en vedette un super-héros, une adolescente pakistano-américaine.
Surtout quand il s'agit de femmes. Cela me procure une satisfaction intérieure parce que je sais qu'Hollywood nous reconnaît. Il prête attention aux autres religions, à d'autres types de personnes.
Le changement à Hollywood n'échappe pas à Vicky, la mère de Sophia.
C'est un monde différent de celui où nous grandissons, car il y avait très peu de personnages principaux à l'écran féminin et fort.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno, à la console, Jonah Cummins. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.